Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct de la médiathèque Lirolac de Charavine en compagnie de Véronique Copetti. Bien le bonjour Véronique.
Bonjour.
Nous allons aborder pendant près d'une heure le parcours de notre invité, aussi bien son passé, son présent que son avenir. On sortira les boules de cristal. Et en tâchant de rattacher cette histoire, ce vécu, avec le territoire du Pays Voironnais, puisque la particularité de cette radio, c'est qu'elle émet sur l'ensemble des communes du Pays Voironnais. Voilà, le programme est donné. On va ponctuer du coup ces trois quarts d'heure d'émission d'extraits musicaux où on voyagera dans l'espace, dans l'eau et dans les saisons, j'en dis pas plus. Puisque notre invité a choisi trois musiques d'un groupe qui s'appelle Marion.
Voilà, c'est un groupe qui initialement s'appelait Silmarillion et qui, je ne sais pas si tu connais le Seigneur des Anneaux, qui est célèbre. Voilà, Seigneur des Anneaux, le Silmarillion et le Marion, c'est est lié à, au livre.
Ok.
Non.
Bon, on va explorer ce fil tout au long de l'émission aussi. On va redécouvrir du coup le Seigneur des Anneaux. Ok. Ouais. Alors, sans plus attendre, est-ce que. On va tutoyer Véronique ?
Oui, c'est. Pas de problème.
Est-ce que tu veux te présenter auprès de nos auditeurs ? Est-ce qu'on peut laisser Jason Vest avec nous en fond ? Il nous accompagne depuis le début et c'est vrai qu'on ne les entend plus beaucoup au casque. Merci Myriam. Ah non, on ne les entend plus du tout même. Voilà. Et voilà.
Voilà, alors actuellement j'habite Bilieu, mais avant j'habitais Charavine. Et alors pourquoi est-ce que je suis venue habiter Charavine ? Je me semble que je suis venue y habiter en 1994. Alors, en fait, moi, je travaillais dans le Nord-Isère et mon compagnon travaillait sur Grenoble. Donc, on cherchait une maison qui se trouvait un peu entre les deux. Et on a fait notre choix sur une maison en Pisé qui était déjà répertoriée sur les premiers cadastres de Napoléon. Donc, une vieille maison plus que centenaire qu'on peut voir que les auditeurs ne peuvent pas voir.
Mais qui pourront retrouver en ligne après l'émission.
Voilà, d'accord. Alors pourquoi cette maison ? Si on la regarde, c'est donc une maison en pisé, en terre, avec de la vigne vierge et puis un rosier dessus. Alors, moi, mes racines, pour moi, je ne me sens ni française, ni européenne, ni billantine, ni charavinoise, ni pays voironnaise ou paysanne voironnaise, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais je suis, je dirais, plutôt terrienne, nationalité terrienne. Et la terre, pour moi, mes racines sont dans la terre, avec la terre qu'on pourrait appeler avec un T majuscule. Donc cette maison, je pense que si on l'a achetée, c'est parce que, justement, c'était une maison faite en terre et recouverte de vignes verges. Donc voilà où je puise plutôt mes racines. Alors après, on pourrait dire pourquoi Charavine, autre le fait que la maison nous ait plu. On pourrait dire que c'est juste le hasard, parce que ça se trouvait, comme je l'expliquais, entre le Nord-Isère et puis Grenoble. Mais dans la vie, comme dans les romans, il y a souvent des clins d'œil ou des ricochets. Et c'est vrai que Charavine, par exemple, c'était mes premières vacances sans mes parents, je les ai passées à Charavine. Mon père, sur les photos qu'on peut voir, au débouché du lac, le canal n'avait pas de pont. Ce pont a été construit par mon père, donc bien avant que je naisse. Et je me souviens qu'il m'a raconté d'ailleurs qu'il avait utilisé les pieux, je pense que c'était les pieux du site néolithique, quand il ne s'était pas encore répertorié, là voilà, sur la gauche, oui. Que le site, voilà, le site néologique, le site archéologique n'avait pas encore fait de fouilles dessus. Donc, je me souviens qu'il m'a expliqué qu'il avait utilisé ses pieux. Il a fait un peu de destruction de. alors, je ne sais plus si c'était, dans le cadre de son chantier. Et autre ricochet que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que ma mère était en vacances. Enfin, donc moi, mes premières vacances à mes parents à Charavine, ça devait être à 17 ans. Et ma mère, quand elle avait à peu près cet âge-là, s'est baignée dans le lac de Charavine et a failli se noyer. Et ce sont les pêcheurs qui l'ont sauvée, qui sont allés la chercher pour la ramener au bord. Donc finalement, c'est ça qui est dans la vie. Et dans les romans que j'aime bien mettre aussi en exergue un peu, c'est ricoché dans le passé. On croit que c'est le hasard, mais en fait, les choses résonnent et ricochent. Et parfois, la réalité, la vie dépasse l'imagination.
La terre, l'air, les ricochets sur le lac, que d'images, que de métaphores qu'on peut associer évidemment à Charavine, à ton histoire, c'est très touchant. Il y a dans l'histoire que tu racontes un clin d'œil heureux aussi à l'histoire d'une famille de Charavine, qui est la famille Collet, qui a sauvé de la noyade une fille de grande famille et qui a permis à ses habitants qui vivent à Coltières de pêcher gratuitement sur le lac et de bénéficier des droits de pêche. C'est tout un quartier à Charavine, pour les auditeurs qui nous écoutent, Coltières, baptisé du nom de la famille de Collet, et qui ont des droits de pêche et peuvent circuler librement sur le lac, puisque chacun des autres habitants ou habitants du tour du lac ou même des estivants doivent payer pour circuler sur ce lac. C'était un clin d'œil aussi à l'histoire que tu nous proposais. Ce pont, pour nos auditeurs qui ne le voient pas, il est situé en fin fond ou entrée de la Fure, ça dépend comment on se positionne aussi.
Si on part du fait que l'eau descend vers le sud, on va dire que c'est côté aval du lac, c'est le début de la Fure.
Alors, pourquoi ce pont? Est-ce que tu as une idée de... Il avait vocation à quoi initialement, le pont?
Je pense que avant la route, il n'y avait pas de route. La route au bord du lac n'existait pas. Et donc, on passait par ailleurs. D'ailleurs, la maison dans laquelle que j'ai acheté, c'était pareil. Avant, parce que du coup, j'ai fait un peu des recherches. Et, enfin, les voisins m'ont dit que c'était certainement un relais de calèche, parce qu'en fait, la route au bord du lac, avant, n'existait pas. Et pour aller à Le Pin, il fallait passer rue du Cuchet et on passait par en haut. Voilà. Et donc, c'était un relais de diligence, quoi, de chevaux.
Oui, parce que l'histoire aussi de Charavine, qui était avant Charavine-les-Bains, au passage, on pourrait en discuter là aussi, c'est l'histoire de beaucoup de petits hameaux qui progressivement se sont rassemblés pour constituer un village. Mais bon, Valcoltière, des Groslandières, du Fayard, du Guillermet, il y a une histoire très riche. Charavine-les-Bains, tu l'as connue?
Non.
Non. Donc les vacances ici, elles étaient plus prendre l'eau, venir se rafraîchir.
Voilà, moi j'habitais quand j'étais enfant, j'habitais Fontaine, puis après adolescente et une partie de ma jeunesse à Sassenage. Donc pour nous, Charavine, qu'on prononçait Charavigne d'ailleurs, c'était l'endroit pas très loin de la banlieue grenobloise de Grenoble pour aller passer. Un petit moment, mais je suis allée qu'une seule fois en vacances à Charavine. C'était donc avec des copains. Où ça devait être au mois de juin ou de juillet, début juillet, après ma terminale.
Et ce clin d'œil que tu fais heureux donc à la terre, au ricochet, est-ce qu'il est quelque chose qui t'est propre ou c'est quelque chose qui t'a été transmis aussi, tu vois, ton papa?
Non, je pense que c'est quelque chose qui m'est propre.
Et parce que, je ne sais pas, est-ce que on va basculer, si tu veux bien, dans le temps avec la démarche de l'écriture et le fait de passer par cette épreuve de la terre, du piset, de l'eau, des ricochets, à la prise en main de la plume ou du clavier. Comment ça se passe?
De la plume et pas du clavier, parce que, pareil, j'ai besoin du papier, du crayon, enfin du stylo. Et en fait, quand j'écris, j'écris sur des cahiers. Puis j'aime raturer, revenir. Et de la réécriture que j'utilise le clavier. Je ne suis pas à l'aise avec le clavier. Pareil, c'est aussi du plastique peut-être. Il n'y a pas ce côté nature qu'on peut trouver dans le papier. Et après, dans la construction de mes livres, j'aime en effet mettre ces effets ricochets. Surtout dans, par exemple, dans la construction de mon dernier livre, Épitaphe pour un monde creux, je mets des petits cailloux comme ça dans mon livre. Je sème des petits indices et puis au fur et à mesure de la lecture, on va comprendre pourquoi est-ce que il y a eu tel passage. Voilà.
Et ce besoin, cette idée d'écrire, est-ce qu'elle émerge dès l'enfance? À partir de quand tu commences à écrire?
Oui, j'ai toujours écrit. Depuis que je suis en primaire, j'ai commencé, je pense, par écrire des poèmes, puis des nouvelles. Alors, il y a très très longtemps, je connaissais une copine qui travaillait à Radio France Isère. Qui après a fait de la radio. Et donc j'avais écrit des nouvelles, notamment, je me souviens, c'était en 1986, c'était sur les attentats qui avaient lieu à cette époque à Paris. Et mes nouvelles étaient lues, quelques nouvelles avaient été lues sur Radio France Isère, justement. Et oui, j'ai toujours écrit pour moi, puis pour les autres.
Oui, pour les autres, c'était déjà une évidence enfant ou c'est venu après par le biais de rencontres, tu évoques les poèmes, parce que le propre peut-être du processus d'écriture, c'est un travail pour soi, avec soi, et puis à la confrontation, à un moment aussi avec poser le point de départ, l'arrivée, construire une histoire, la publication, il y a toute une vie aussi du livre même qui sorte, quoi.
Voilà, oui, c'est après, il y a deux choses différentes. Il y a en effet écrire pour soi. Donc ça, c'est un besoin que beaucoup de gens, surtout à l'adolescence, je pense, éprouvent. Le besoin de mettre, c'est tellement un cataclysme l'adolescence qu'on a besoin parfois de mettre ce qu'on ressent sur le papier. Et puis, il y a aussi, je pense que tout écrivain a un désir de reconnaissance, et donc désir de reconnaissance, ça amène vers la publication, vers voilà, une ouverture aux autres.
La confrontation, elle se passe à... Est-ce que tu te souviens du moment où tu as pu partager tes premiers écrits?
Bah, le poème, je m'en souviens l'avoir lu dans ma classe de CM2,
C'est pas un acte
voilà,
anodin.
devant mes élèves. Et après, oui, c'est ce que je disais, mes nouvelles, je devais avoir 20 ans, 86, voilà.
Et du coup, le regard qu'on porte, on accueillait ici beaucoup de musiciens qui nous expliqueraient l'esprit de camaraderie, la confrontation qu'il peut y avoir entre quelque chose de très introspectif, le cri du cœur, on pense à Julien Messina notamment, et la guitare qui lui a permis d'extérioriser beaucoup de choses, mais toujours avec le souci du partage et du dialogue avec les autres. Le processus d'écriture même, lui, invite à beaucoup plus d'introspection.
Voilà, tout à fait. Oui, c'est un travail solitaire. Et donc, tout à fait. Hein, voilà. D'ailleurs, j'en laisse sans voix, tellement ce travail est solitaire. C'est plus, voilà. Enfin, en effet, l'écriture se fait seule. Et après, moi, je déteste tout ce qui est communication, tout le travail qui doit être fait après. De vente, de communication, de publicité, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Je pense que c'est une autre part. En fait, je me livre dans l'écriture, dans le livre, et après en parler, c'est un peu faire une. Je peux que parapher en moins bien ce que j'ai écrit. Donc tout ce côté comme relation ou. Je pense que quand on fait de la musique et quand on joue en live, on passe, y a une émotion qui passe avec le spectateur, que l'écrivain, on ressent. Il y a peut-être une petite frustration de ce côté-là qu'on ne peut pas ressentir parce qu'un livre se lit seul. Et même si on fait des lectures, comme j'en ai déjà fait, des lectures à voix haute, on est tellement concentré sur sa lecture, sur qu'on partage finalement je pense pas comme un chanteur ou un musicien.
Oui, puis la particularité du live, c'est qu'elle invite à une réécriture, alors que le travail de réécriture, une fois que le livre il est sorti, c'est l'interprétation du lecteur ou la lectrice qui va permettre de produire une nouvelle lecture qui est en effet le commentaire, la communication, qui est beaucoup moins évident, effectivement, une fois qu'on a posé les mots sur le papier, de revenir dessus. Alors, si on peut s'autoriser justement cet écart, est-ce que tu procèdes beaucoup à de la réécriture au cours de ton écriture, ou c'est, pour reprendre des procédés un petit peu surréalistes, de l'écriture automatique? Comment tu procèdes pour écrire un livre, une nouvelle, ces poèmes? Est-ce que tu as senti une évolution aussi au cours du temps?
Alors non, je n'ai pas senti une évolution, mais par contre, alors comment je fais pour écrire? D'abord, je réfléchis à l'histoire au début, au milieu, à la fin, de façon, on va dire, très grossière, pas dans les détails. Donc je sais d'où je pars, où je vais et comment je vais faire pour y arriver, plus ou moins. Après, toutes les scènes, je les imagine, je les visualise et je raconte ce que je vois dans ma tête. Notamment, par exemple, quand j'avais écrit Le Chant des baleines, dont toute une partie se passe dans le désert. Je ne suis jamais allée dans le désert, mais il y a des gens qui sont allés et qui ont été étonnés par les descriptions que je faisais du désert. Donc, j'ai une puissance évocatrice de l'image assez forte, que après je transmets. Quand j'écris, je suis très sensible aussi à la musicalité des phrases. C'est-à-dire quand je lis, il faut qu'il y ait un rythme, il faut qu'il y ait le bon rythme. Et si ça ne coule pas, ou si c'est trop long, ou trop haché, ou trop, je réécris. Donc déjà, quand j'écris, je réécris beaucoup, à l'instant T, mes chapitres. Et après, quand j'ai fini d'écrire le livre, j'entends bien au moins, enfin, voire une année ou plusieurs mois, et puis je relis. Et là, quand je relis, je vois des parce que j'essaye d'oublier en fait tout ce que j'ai écrit pour le relire avec un œil neuf et pour retrouver cette musicalité, pour voir si bah, y a pas des fausses notes quelque part, des mots changés, des images aussi qui n'ont pas été bien mis avec les bons mots, les bonnes phrases. Voilà.
Apprendre à désapprendre, s'oublier, oublier pour regarder avec un regard neuf. Mmh. Est-ce que la question là, qui est un peu compliquée peut-être lorsqu'on passe à l'écrit, se pose aussi des silences? Est-ce que tu arrives à travers ton écriture, où la question se pose ou se pose pas, lorsque tu évoques le désert, ça me renvoie l'idée aussi de ces espaces étendus, mmh, où la vie semble s'être arrêtée, avec beaucoup de nuances, hein, puisque le désert a la particularité que le jour il peut faire très chaud, la nuit très froid, et que le sable nous rappelle vite que la vie à travers le vent est très présente. Mais néanmoins, il y a une sensation peut-être de silence qui peut s'instaurer lorsqu'on est dans le désert. Est-ce que cette sensation du silence aussi, elle est pour toi une épreuve à travailler ou pas lorsqu'on écrit, lorsqu'on fait de la musique? Le silence, c'est lui qui nous permet aussi d'aller chercher des émotions, susciter des regards. Voilà, est-ce que tu travailles à des espaces comme ça, vides dans l'écriture, à susciter l'imaginaire du lecteur?
Oui, je pense que comme j'écris d'une façon très... Mon style est quand même assez imagé, donc ça laisse la place, en effet, au lecteur à imaginer, à combler. De toute façon, je pense que l'écriture, c'est ça. Elle ne doit pas trop en dire. Elle doit en dire juste ce qu'il faut pour pouvoir, après, faire travailler aussi le lecteur. Je pense qu'un bon livre, c'est un livre où le lecteur est actif. Donc, c'est là où il se construit sa propre image. Il fait, tout à l'heure, tu parlais d'interprétation des personnes. Et c'est ça, en fait. J'écris un livre, mais chacun doit le prendre en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il ressent. Et j'apporte, si tu veux, une brique à la construction de son être, de sa façon de penser, de revoir les choses. Et après, le silence, on pourrait le traduire du niveau d'écriture par les retours à la ligne. Voilà, au mieux d'écrire, d'ajouter les lignes les unes après les autres, de faire des paragraphes, des retours à la ligne. Par exemple, le fil de mer que j'ai écrit, c'est un peu un livre que j'ai composé comme un tableau impressionniste où l'histoire se construit par petites touches, avec parfois des chapitres qui font juste une ligne. Et là, le silence, il a d'un chapitre à l'autre. Le silence, il est là, il existe. On peut y mettre plein de choses.
On peut mémoriser le bruit de l'eau, puisque ça va nous emmener à écouter Memory of Water. Mmh. Avant, je vais faire un clin d'œil et remercier Myriam Péchu de nous permettre d'échanger aujourd'hui. Signaler aussi que sur ces questions d'interprétation du texte et de la narration, il y a toute une réflexion qui est menée, on parlait de la Lorraine, par Jean-Pierre Eskenazi, qui est désormais professeur émérite à l'Université de Lorraine, qui pose toutes ces questions d'interprétation et la libre interprétation des lecteurs, des différentes grilles de lecture. Il les réinterprète dans le cadre de travail d'écriture, mais aussi à l'aune de l'interprétation de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux, qu'on citait tout à l'heure. Donc c'est un clin d'œil heureux qui est fait aussi à ce sociologue. Oui, tout est lié,
tout est ricoché.
Donc on va mémoriser le son de l'eau aujourd'hui, Memory of Water. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce choix?
Alors, moi, je ne proposais que des musiques de Marion. C'est un groupe que j'ai découvert il y a très longtemps. Je devais avoir 20 ans à peu près. C'est un groupe que j'ai toujours suivi. C'est peut-être le seul groupe que j'ai suivi. Ils chantent encore maintenant, même si je crois ils sont pas loin d'avoir 70 ans. Ils sont entre 60 et 70 ans maintenant, les musiciens. Et c'est un groupe de rock progressif. Et c'est vrai que quand la musique a beaucoup d'importance pour moi. Et la musique fait émerger des images, des sensations, des sentiments. Et quand j'écris, je peux, et c'est le genre de musique que j'écoute.
Eh bien, c'est parti, un extrait donc de Memory of Water, et on reprend juste après. Still hanging from the tree, by the standing pool where you drank me and filled me.